La parole de Dieu se trouve dans Jean chapitre 15, versets 1 à 15. Lisons à tour de rôle. Moi, je suis le vrai cèpe et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes demandé à cause de la parole que je vous ai annoncée, et demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep. Vous, les sarments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis et si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Prions pour pouvoir écouter la parole de vie pour que le Saint-Esprit agisse. Prions pour les vertonneurs pour que Dieu oigne ses lèvres par le Saint-Esprit, pour que Dieu lui donne la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Prions pour cela. Dieu le Père, merci de nous avoir appelés aujourd'hui aussi pour que nous puissions agenouiller devant toi et pour que nous puissions recevoir ta grâce que tu veux nous donner et ton amour et ta bénédiction. Oins les lèvres de ton serviteur qu'il puisse leur enseigner ta parole et ta volonté. Je prie au nom de Jésus, le cep de Dieu. Le cep de Dieu. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est le vigneron du cep. Comme celui qui cultive le cep, ce dernier porte beaucoup de fruits. Jésus-Christ est le cep. Dieu déploie toute son énergie seulement aux œuvres de son Fils, le cep. C'est autrement dit son amour. Dieu le Père, par amour pour le Fils, lui donna un commandement. L'amour de Dieu est donc un commandement. Recevoir son amour, c'est obéir. Refuser l'amour de Dieu, c'est désobéir. Lorsque le serment n'est pas aimé, il s'assèche. Son amour étant un commandement éternel. Celui qui ne garde pas le commandement de Dieu s'assèche et il est ainsi jeté dehors. Tandis que celui qui observe le commandement de l'amour ne périt pas. L'Église de Jésus est le cep spirituel et déborde naturellement des fruits de l'amour. Suis-je le serment de son cep? Sa parole demeure-t-elle en moi? Son amour remplit-il mon esprit? Celui qui reçoit son amour fait parvenir sa prière. Celui qui n'est pas aimé est déjà mort et sera finalement abandonné. Celui qui dit qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église et qui ne reçoit pas l'amour de Dieu verra son âme périr. L'Église doit être avec Dieu et son Fils et l'amour doit être spirituel par le Saint-Esprit. Dieu étant semeur qui cultive le cep. Le semeur peut faire autre chose. Ce n'est pas tout le monde qui est le semeur. Certains font leur agriculture, certains autres font le commerce, et certains autres vont dans une entreprise. Voilà, il y a une diversité de professions. Alors, les agriculteurs doivent se concentrer sur leur cultivation. Et les autres, eux aussi, doivent se concentrer sur leur propre travail. Lorsqu'on dit que Dieu est semeur, alors il fait l'agriculture. Lui, en fait, voilà, il cultive la vigne. Et et Jésus est le cep. Et vous, en fait, c'est-à-dire ses disciples, sont les serments de ce cep. Alors, pourquoi il cultive la vigne? Il veut faire croître l'arbre, il veut aussi que cet arbre fasse sortir beaucoup de branches et ainsi que beaucoup de raisins. Et alors, il peut y avoir des dizaines de raisins ou des centaines de raisins. Et alors, c'est lui qui cultive ce cep. Lorsque j'ai visité dans le jardin, dans un jardin de vigne, alors j'ai vu des cèpes dans ce jardin. Et alors, sur ces arbres, il y a eu des insectes. Alors, c'était sale. Alors, pour que ces portent beaucoup de fruits, il faut les émonder. Sinon, ils ne peuvent pas porter beaucoup de fruits. Et alors, même en plus, même s'ils portent des fruits, la qualité de ces fruits n'est pas bonne si on ne les émonde pas. Lorsque les agriculteurs cultivent des légumes, ils les aiment vraiment. Ils les aiment de tout leur cœur, toute leur force. Et lorsqu'ils cultivent donc leurs arbres, ils les aiment sincèrement. De la même manière, Dieu aime Jésus qui est son cep. Lorsque le statut de Jésus-Christ s'est révélé, qu'est-ce que Dieu le Père lui a dit? Il a dit, c'est mon fils bien-aimé qui fait ma joie. Voilà, donc Dieu a dit concernant son fils, c'est lui qui fait ma joie. Et alors, Jésus-Christ a glorifié Dieu le Père, et c'est ainsi que le Fils a plu au Père, et le Fils qui fait la joie de Dieu, le Père. Quant à l'Église, l'Église est le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi alors nous sommes les serments qui sont attachés au cep, qui est Jésus. Il y a les pasteurs, les ministres, il y a les enseignants, les diacres, diaconesses à l'Église. Donc voilà, il y a un certain nombre de ministères qui sont possédés par les fidèles de l'Église. Et alors, c'est eux sont disciples de Jésus qui appartiennent tous au Christ. Alors, ce que doivent faire les branches du cep, c'est quoi? C'est porter des fruits. Il faut que nous devenions donc disciples de Jésus. Il faut que nous devenions donc branches, les serments du cep. Alors, il faut que nous soyons bien attachés au cep en tant que serment de ce cep. Et si ces serments ne portent pas de fruits, ils ne servent de rien. Donc, qu'est-ce que c'est porter des fruits en tant que serment? C'est évangéliser les âmes et c'est sauver les âmes. Il faut donc sauver les âmes. Lorsque j'ai planté l'église, son acte, j'ai prié à Dieu pour que Dieu m'envoie 10 âmes. Alors, il faut faire en sorte qu'on sauve 10 âmes par an. Alors, c'était mon sujet de prière. Pour que beaucoup, qu'il y ait beaucoup de raisins. Voilà, donc Dieu accorde son amour à son cep et nous appartenons à ce cep en tant que serment. Si ces serments ne portent pas de fruits, ils s'assèchent et ensuite ils seront jetés dehors. Donc voilà ce que doit faire l'Église, c'est quoi? C'est la croissance. Il faut que l'Église continue de croître et comme un serment continue de porter des raisins. Ces raisins sont attachés aux serments et ces serments sont attachés aux cèpes. Et voilà, il y a l'Église, il y a une diversité de personnes, une diversité de professions, voilà, diversité de cultures. Mais lorsqu'on entre dans l'Église, il faut qu'on transcende cette diversité, cette différence. Et même si on travaille... Même si on a différentes professions, et même si on a différentes cultures, même si on a différents modes de vie, il faut qu'on efface cette différence, cette diversité. Et il faut qu'on s'unisse en étant en Jésus. Dieu aime le cep, alors il faut que le cep et les sarments deviennent un. Et alors la forme des branches et des raisins est différente. Alors c'est l'essence qui permet au cep de porter des fruits. Qui est le diable? Le diable, c'est celui qui a dominé le monde. Alors, il manipule ce monde. Alors, si nous sortons du diable et si nous devenons hommes de Jésus, alors, à ce moment-là, nous pouvons être dérangés par ce diable parce que le diable est le diviseur. Il sème des divisions au sein de l'Église pour nous entraver. Lorsque nous voyons des cèpes, et pour les autres arbres et les branches des autres arbres peuvent se briser facilement, mais pour le cep, les serments du cep ne se brisent pas facilement et s'ils sont détachés du cep, voilà, les serments du cep sont profondément attachés au cep. Mais ce que fait le diable, c'est qu'il il fait en sorte que nous sortions du cep, nous soyons séparés du cep. Mais comment nous sommes devenus chrétiens, hommes de Jésus? Alors nous sommes devenus chrétiens, ce n'est pas parce que nous avons une qualification, ce n'est pas parce que nous avons passé un examen, ce n'est pas parce que notre apparence était belle que nous avons été choisis par Dieu. Et... il faut que nous agenouillions devant le nom de Jésus. Il faut que nous reconnaissions notre statut de pécheur. Jésus a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc, chacun de nous doit reconnaître son statut de pécheur. Ensuite, il doit se repentir. Et ensuite, Chacun de nous doit affronter le diable. Et donc, il faut que nous soyons totalement coupés du diable et de notre vieil homme, notre passé. Ensuite, il faut que nous nous unissions à Jésus pour pouvoir être en Jésus. Et ensuite, il faut que nous obtenions de nouvelles vocations en entrant en Jésus. Alors, comment nous sommes devenus donc chrétiens? Il faut que nous soyons bien conscients. De cela, nous sommes devenus chrétiens. Alors, il y a eu beaucoup d'étapes à passer, beaucoup d'étapes à passer pour pouvoir devenir chrétien. Et il y a eu aussi la patience de la part de Dieu. Alors, grâce à cela, nous sommes devenus chrétiens. Ce n'est pas parce que nous sommes entrés dans le bâtiment de l'Église que nous sommes devenus chrétiens. Et il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été entrepris par notre Dieu le Père. Et nous avons passé beaucoup d'étapes. Donc, il ne faut pas que nous méprisions notre nouveau statut, c'est-à-dire que notre statut de chrétien ne doit pas être méprisé. Alors, Dieu a agi fortement et il a patienté longuement et il a accordé beaucoup d'amour à nous. Il s'est beaucoup sacrifié pour que nous puissions devenir chrétiens. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que nous abandonnions ce statut à notre gré. Il ne faut pas le faire parce qu'il faut que nous pensions aux efforts de Dieu. Alors, il a cultivé le cep pour pouvoir porter des fruits. Alors, jusqu'à cela, il a entrepris, il a engagé beaucoup d'efforts. Il faut que nous reconnaissions notre statut de chrétien. Mais le diable renie notre statut de chrétien. Il nous dit, tu n'es pas chrétien. Tu es seulement un homme, tu appartiens au monde. Tu n'es pas un chrétien. C'est ainsi qu'il renie notre statut de chrétien. C'est pourquoi il nous accuse nuit et jour. Et alors, il parle de nos fautes à Dieu pour nous accuser. C'est ainsi qu'il opprime nos âmes et pour que nous puissions renier notre statut de chrétien. Donc, si nous sommes vraiment hommes de Jésus, alors quoi qu'il arrive, il faut aimer l'Église et Jésus jusqu'au bout. Mais parfois on dit, alors ce n'est pas mon travail, c'est le travail du pasteur, c'est le travail du ministre, c'est pas la peine de le faire. C'est ainsi que on renie notre statut saint lorsqu'on oublie notre statut de chrétien, on tombe en tentation. Ensuite, on peut même quitter l'Église. Ensuite, on peut être déchiré par le diable. C'est pourquoi, si nous sommes devenus chrétiens, il faut que nous soyons vraiment conscients de l'importance de ce statut, de la valeur de ce statut. Alors, si nous ne le sommes pas, nous ne pouvons pas être attachés au cep qui est Jésus. Alors, en fait, j'ai visité donc un jardin de vigne pour pouvoir comprendre un peu le fonctionnement de la croissance de la vigne. Il faut que le cep et les sarments soient bien attachés solidement. Et les sarments qui s'attachent au cep doivent porter beaucoup de fruits, sinon le semeur ne peut qu'être déçu le cep. Il faut que nous fassions donc beaucoup d'efforts pour pouvoir porter beaucoup de fruits en tant que serment du cep. Alors, si nous sommes chrétiens, si nous sommes devenus chrétiens, alors si nous avons obtenu ce statut précieux et saint, il faut que nous connaissions bien le processus que nous avons passé pour pouvoir devenir chrétiens. Le diable nous accuse continuellement, nuit et jour, pour nous entraver. Donc, il ne faut pas que nous soyons donc déchirés. Il ne faut pas que notre cœur soit déchiré, désespéré par le diable. Et nous devons jouer un rôle important en tant que chrétiens. Il est dit dans Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11, il est dit, « Le diable nous accuse nuit et jour. » En fait, elle le fait souffrir nous et jour en nous accusant, nous et jour en disant à Dieu, lui, en fait, il n'a pas la foi, il n'a pas la foi. Alors, à ce moment-là, lorsque le diable nous le dit, nous pouvons être sûrs, nous ne pouvons être sûrs de l'existence de notre foi en nous. Donc, il faut toujours combattre notre incrédulité. Incrédulité. Et puis, il faut pas être désespéré par le diable qui cherche à renier notre statut. Il l'est dit dans l'Apocalypse. Eux, en fait, ils sont devenus vainqueurs grâce au sang de Jésus, grâce au sang de l'agneau et grâce à la confession de la foi. Alors eux, en fait, ils se sont battus jusqu'au bout, jusqu'à abandonner leur vie. Ils n'ont pas épargné leur vie pour pouvoir sortir vainqueurs du combat contre le diable. Et eux, en fait, ils ont confessé jusqu'au bout. Ils ont été sauvés par le sang de l'agneau. Et alors, et ils en témoignent jusqu'au bout. C'est pourquoi ils peuvent vaincre le diable. Donc, il ne faut pas que nous ne pouvons pas utiliser un autre moyen pour pouvoir sortir vainqueur du diable. Il faut que nous disions continuellement, je crois au sang de Jésus, je crois au sang de Jésus, parce que le sang de Jésus se trouve en moi. C'est notre nouveau statut. Hein. Il faut que nous disions continuellement, je crois au sang de Jésus, je crois au sang de Jésus. Et c'est ainsi qu'il faut que nous soyons être remplis de la puissance du sang de Jésus. Il faut que nous soyons vraiment sûrs de notre nouveau statut, même si certains nous disent tu n'es pas un chrétien. Mais il faut que nous affirmions fortement que nous sommes chrétiens par le sang de Jésus. Alors il faut que nous disions avec hardiesse, par la foi, je crois au sang de Jésus. Lorsque nous avons donc reçu la puissance du sang de Jésus, nous avons reçu le Saint-Esprit envoyé par Dieu le Père. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous maintient, qui nous préserve. Donc, il faut que nous soyons toujours conscients du fait que nous avons été sauvés par le sang de Jésus. Et il faut que nous soyons toujours sûrs du fait que nous menons la vie de la foi par le Saint-Esprit, que nous sommes hommes du Saint-Esprit. Il faut que donc nous reconnaissions toujours que nous sommes hommes du Saint-Esprit. Même si les gens nous disent « tu appartiens au monde comme moi et tu es aussi corrompu comme moi et tu appartiens au monde corrompu ». Et Dieu n'existe pas, tu appartiens au monde comme moi, même si les gens nous le disent. Il ne faut pas que nous soyons séduits par eux. Il faut que nous prétendions toujours notre nouveau statut. Alors, où que nous soyons, nous appartenons au Christ. Et il faut que nous ayons cette fierté. Moi, je l'ai toujours. Alors, même si mon corps est toujours se trouve dans ce monde et poursuit le cours de ce monde, même si mon corps est dans le mécontentement et moi, je suis devenu chrétien, c'est pourquoi mon homme intérieur aime le Christ. Alors, c'est pourquoi je n'appartiens pas au monde. Et moi, je m'attache totalement au sang de Jésus et le sang de Jésus m'a permis de devenir chrétien. C'est ce dont je témoigne. En ce faisant, alors ma foi a été reconnue et c'est par cette foi-là, je peux être justifié. Les gens de ce monde sont bons, ils sont exemplaires. Même s'ils ont leur propre justice, aux yeux de Dieu, ils n'ont pas de justice en fait. Et ils sont injustes du point de vue de Dieu. Même si on n'a pas de justice de notre part, Dieu nous a déjà justifiés parce que nous appartenons au Christ. Et par le sang de Jésus, Et par le mérite du sang de Jésus, nous avons été justifiés. Alors si nous avons obtenu cette justification une fois, qui pourra nous condamner, qui pourra nous juger? Même les anges, même l'autorité céleste, alors même les tribulations, les persécutions, même si les affaires de l'avenir pourront nous condamner. Et qui pourra nous diviser de Dieu? Alors nous sommes en Jésus-Christ, alors qui pourra nous renier, il est dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 30. Donc, alors quoi qu'il arrive, que ce soit la tempête venant du monde et qui entrave notre foi, qui déstabilise notre statut, qui nous fait perdre notre fierté, notre confiance, il faut que nous tenions bon jusqu'au bout parce que nous avons reçu la grâce de Dieu. Même si tu es meilleur que moi, tu n'as pas été pardonné de Dieu. Mais moi, je suis moins bon que toi, mais j'ai reçu la grâce de Dieu. Chaque fois que nous nous réunissons, il faut que nous vivions la coupe. Pourquoi on le fait? C'est parce qu'il faut que nous nous rappelions comment Jésus est mort à notre place. Donc, il faut que nous témoignions de la raison pour laquelle Jésus est mort. Alors, chaque fois que nous vivions la coupe et que nous mangeons la coupe, chaque fois que nous mangeons du pain, il faut que nous annoncions la mort de Jésus-Christ jusqu'à son avènement. Si nous ne connaissons pas la puissance du sang de Jésus, nous vivons et mangeons nos propres péchés. Il ne faut jamais renier donc la grâce du sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus. Alors il faut que nous annoncions le sang de Jésus aux autres, sinon on pêche contre le corps de Jésus-Christ. À chaque fois que nous mangeons et vivons le pain et la coupe, cela signifie que nous annonçons la mort de Jésus-Christ. Alors, si nous avons réussi dans ce monde, si nous avons trouvé un bon emploi dans ce monde, nous pouvons en témoigner. C'est un témoignage aussi, hein? Mais ce ne sont que des feuilles du cèpe. Mais ce que le semeur attend du cèpe, ce sont des raisins. Donc, il faut que nous soyons conscients de l'importance de notre statut de saint. Comment nous sommes devenus chrétiens? Comment sommes-nous devenus saints? C'est ce dont nous devons témoigner. Donc, il ne faut pas épargner notre vie pour pouvoir en témoigner. En ce faisant, nous pouvons vaincre le diable et nous pouvons... sauver les autres. Si quelqu'un peut nous dire, j'ai beaucoup de péchés, je suis plein de fautes, mais on peut lui dire qu'il peut être sauvé. Parce qu'il y a le sang de Jésus, il y a le mérite de Jésus-Christ. Alors, crois au sang de Jésus parce que le sang de Jésus nous permet de devenir chrétien. Alors, après être devenu chrétien, qu'est-ce qu'il se passe? Et alors, l'Église ne nous reproche pas si nous sommes devenus chrétiens, même si par le passé nous avons été quelqu'un de dangereux et même si nous avons été quelqu'un de corrompu. Et l'Église ne nous reproche pas. Et lorsque Dieu nous appelle, il ne nous a pas appelés parce que nous avons été parfaits, parce que Jésus est venu pour appeler les pécheurs, non pas pour les justes. Le Fils de l'homme est venu pour appeler les justes, non pas les pécheurs. Les pécheurs, non pas les justes. Donc, il ne faut pas que nous renions notre état de pécheur du passé. Parce que si nous le renions, nous renions aussi le mérite de Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu pour appeler les pécheurs, non pas les justes. Donc nous avons été tous pécheurs. Si nous ne croyons pas au sang de Jésus, c'est ça le péché. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 9. Donc la loi parle de diversité de péchés. Et donc il y a beaucoup de péchés commis par le corps, par la pensée. Mais tout ceci est parabolique. Et le Saint-Esprit nous enseigne concernant le péché. Quel est l'enseignement du péché du Saint-Esprit? C'est l'incrédulité qui est le péché. Selon le Saint-Esprit, concernant la justice, je vais au Père. C'est pourquoi vous ne pouvez plus le voir. Seul Jésus est le juste. Seul celui qui appartient à Jésus peut obtenir la justification. Alors si Jésus quitte le monde, il n'y a plus de juste dans ce monde, il n'y a qu'un seul juste dans ce monde. C'est pourquoi il faut que nous nous remettions totalement au mérite de Jésus-Christ. Et ensuite, il faut que nous appartenions totalement à Jésus. À ce moment-là, nous pouvons obtenir la justification. Voilà l'Église de Jésus-Christ. Alors dans l'Église de Jésus-Christ, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de critique. Il faut l'amour réciproque au sein de l'Église. L'amour couvre beaucoup de péchés. C'est pourquoi dans l'Église, même si notre statut du passé n'était pas bon, et il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de critique pour cela. Il n'y a que l'amour au sein de l'Église. Et il n'y a que la reconnaissance de notre nouveau statut de chrétien. C'est ça l'Église. Par exemple, dans l'Église, il peut y avoir un membre qui était emprisonné, quelqu'un d'autre qui était inutile dans le monde, mais ces gens-là ont été évangélisés, ils sont venus à l'Église. Comme ça, ils peuvent se relever, ils peuvent se renouveler. À ce moment-là, on ne les critique pas, on ne critique pas leur passé, et alors on les reconnaît en tant que ceux ayant reçu le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus. Ensuite, ils peuvent même obtenir des ministères à l'Église. C'est ainsi qu'ils deviennent sarments du cèpe. Comme ça, ils peuvent être félicités dans l'Église. Même s'ils ont été méprisés dans le monde, ils ne le sont pas à l'Église. Même s'ils n'ont pas été traités dignement à l'Église, ils ne sont pas traités comme pécheurs. Voilà, c'est ça la vraie fonction de l'Église. Le cèpe, les sarments et les fruits ont la même qualité parce qu'ils sont nourris par la même essence. Alors vous et moi, nous sommes donc les sarments du cèpe qui est Jésus. Alors nous sommes attachés à ce cèpe en tant que sarments. Et il y a donc le travail des sarments. Même si nous sommes sarments, il ne faut pas que nous nous contentions d'être attachés à ce cèpe. Il faut que nous portions des raisins en tant que sarments du cèpe. Pour cela, il faut évangéliser beaucoup. Il faut obtenir beaucoup de nouvelles âmes. Lorsque nous prions, quel doit être le sujet de notre prière? Par exemple, il faut que nous soyons capables de prier à Dieu, « Donne-moi 10 nouvelles âmes cette année. » Et c'est ainsi que nous cherchions à évangéliser. À ce moment-là, nous pouvons manifester nous pouvons croître en tant que serment du CEP. Notre église était toute petite au début. Mais nous avons prié pour que Dieu nous donne 10 âmes. Et voilà comment l'Église est aujourd'hui. Donc il faut que nous portions beaucoup, beaucoup de fruits. Pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Si vous demeurez dans mes paroles, si mes paroles demeurent en vous, vous deviendrez mes vrais disciples. Alors, demandez tout ce que vous voulez. À ce moment-là, vous l'obtiendrez. Si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, il est dit dans Romains chapitre 8, verset 30, Si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans mes paroles, si vous reconnaissez ma parole, si vous suivez mes paroles fidèlement, si vous êtes entré dans mes paroles pour y vivre, vous deviendrez mes vrais disciples. Si mes paroles demeurent en vous, à ce moment-là, alors demandez tout ce que vous voulez, alors vous l'obtiendrez. Même si on prie beaucoup, et pourquoi on n'est pas exaucé? Alors à ce moment-là, on est déçu. Vous demandez, mais vous n'obtenez rien parce que vous priez pour votre désir charnel. Alors, pour obtenir ce qui appartient au monde, vous priez, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas exaucé. Mais si nous prions selon la volonté de Dieu, nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons. En fait, Dieu nous a dit concernant la prospérité charnelle, il ne faut pas que nous soyons paresseux. Même si nous faisons beaucoup d'efforts, si le pays est pauvre, nous ne pouvons pas prospérer. Donc, il faut que nous créions un environnement favorable pour la prospérité du pays parce que c'est le pays qui nous fait vivre. Mais à l'Église, nous devons demander à Dieu ce qui est éternel. Si vous demeurez dans mes paroles, il faut que les paroles de Dieu demeurent en nous. Jésus nous a dit, le Père m'a aimé, alors je suis dans son amour et moi je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Alors, le Père a aimé le Fils. Alors, le Fils est dans le Père. Alors, je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Lorsque Jésus est dans le Père, quelle était sa foi? Hébreux, chapitre 7, verset 5. Lui, lorsqu'il était dans la chair, il a présenté ses prières à celui qui pouvait le ressusciter. Il a présenté ses explications et ses prières à celui qui pourrait le ressusciter. Et alors Dieu le Père a vu sa crainte et ensuite il l'a exaucé. C'est ainsi que Jésus a cru à l'amour de Dieu et ensuite il a dit « Je t'aime ». C'est ainsi qu'il a confessé son amour au Père. Alors comment il a aimé le Père? Il a aimé le Père de tout son cœur, toute sa force, de toute sa volonté. Nous devons ainsi aimer Dieu le Père. Parfois, lorsque vous venez, vous menez la vie de la foi, vous pouvez donner des offrandes à Dieu. Alors, chaque fois, vous devez donner beaucoup d'offrandes à Dieu. À ce moment-là, vous pouvez être mécontenté. Mais ça vaut la peine de donner à Dieu contre votre désir, contre votre volonté. Ça vaut la peine de donner les offrandes à Dieu par contrainte. Et alors, il faut le faire parce que c'est notre obligation et il faut le faire parce que nous aimons Dieu. Il ne faut pas que nous donnons les offrandes à Dieu par contrainte. Ce n'est pas la peine de le faire lorsque nous sommes contraints de le faire. Parce qu'il n'y a pas de personne qui nous force à le faire. Mais il faut qu'on se dédie à Dieu parce que, parce que c'est une bonne chose. Donc il faut nous encourager les autres à se dédier à Dieu. Lorsque Jésus a regardé les gens, lorsque ceux-ci donnaient les offrandes à Dieu. Et ces gens-là pouvaient être un peu se sentir lourds parce que Jésus les a regardés. Il y a eu des riches et des pauvres qui ont donné les offrandes à Dieu. Alors Jésus les a regardés attentivement. Les riches ont donné les offrandes à Dieu dans les gens. Mais les pauvres, eux, en fait, ils ont donné tout ce qu'ils possédaient à Dieu. Et alors Dieu a fait la comparaison entre ces riches et les pauvres. Il faut que nous ayons l'amour, il faut que nous ayons la foi en nous lorsque nous donnons les offrandes à Dieu. C'est ce qui importe. Je vous dis, Jésus nous a dit, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Alors, si ces paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Dans les, en 1964, je me suis décidé à construire un bâtiment de l'église qui peut accueillir 10 000 personnes. Et j'ai commencé à prier pour cela. Et puis, je me suis décidé à faire des disciples parce que si je ne fais pas de disciples, le travail que j'ai entrepris ne pourrait pas se poursuivre. C'est ça la fonction de la semence. Donc, il faut que je fasse des disciples pour qu'il y ait des semences. Donc, par an, j'ai envoyé 3 ou 4 personnes au séminaire. Je les ai financées. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a demandé de le faire. C'est moi qui ai décidé de le faire. Et parfois, j'ai financé certains étudiants qui ont fait les études à l'université. Alors, j'ai voulu faire sortir 10 000 disciples. Alors, j'ai prié pour cela. Et alors, pour pouvoir faire sortir 10 000 disciples, il faut que le nombre de fidèles atteigne au moins 30 000. Avoir un espace capable d'accueillir ces personnes. J'ai beaucoup prié. Et pour obtenir 10 000 leaders spirituels, j'ai prié. Et je prie aussi pour que Dieu me donne un espace qui peut accueillir ces leaders. Alors, il fallait 40 ans pour pouvoir y arriver. Alors, je n'ai pas abandonné mon objectif. Et pendant ce temps-là, Dieu m'a donné beaucoup de sagesse. Alors, parfois, l'Église me donne des rémunérations, moi, mais je les épargne pour l'achat de terrain. Et si l'Église me donne beaucoup, je les reçois. Et si, si l'Église me donne peu, je les reçois aussi. Et chaque fois que j'ai de l'argent, j'achète des terrains et je continue de construire les bâtiments de l'Église. Parce qu'il y a des commandements du Seigneur Jésus. Alors, je prie selon ces commandements. Et si je cherche d'abord la justice et son royaume, je pourrai accomplir sa volonté et je pourrai être exaucé. Alors, certains disent, même si j'ai prié pendant longtemps, pourquoi je ne suis pas exaucé? Parce que, alors, Jésus nous a dit, vous demandez, mais vous n'obtiendrez rien parce que vous demandez selon votre désir charnel. C'est pourquoi il ne faut pas demander le vêtement ou la nourriture. Il faut d'abord chercher sa justice et son royaume. Alors, si vous demeurez dans mes paroles, vous deviendrez mes vrais disciples. Il faut que nous pensions toujours à cette parole. Alors, le commandement du Seigneur, qui est le plus important, c'est l'évangélisation. Comment pouvons-nous être remplis de joie? Comment pouvons-nous faire valoir toujours notre autorité en tant qu'enfant de Dieu? Alors, il faut évangéliser, il faut annoncer la bonne nouvelle aux autres. À ce moment-là, ceux qui nous écoutent veulent devenir enfants de Dieu. Ils veulent devenir chrétiens comme nous. À ce moment-là, toutes nos prières seront répondues. Est-ce que vous êtes vraiment disciple de Jésus ou pas? Les esclaves, eux, ils ne connaissent pas la volonté de leur maître, mais les enfants connaissent la volonté de leur père. Alors, nous sommes enfants de Dieu. Et le serviteur, eux, en fait, ils sont payés par jour, par exemple. Alors, ils travaillent pour gagner de l'argent. Si leur maître leur demande de bâtir une maison, ils le font. Ou si leur maître leur demande de détruire cette maison, ils la détruisent. Donc, ils ne connaissent pas la raison pour laquelle ils doivent bâtir ou construire une maison. Mais nous, nous connaissons la volonté de notre maître parce que, alors Jésus nous a dit, nous sommes ses frères. Et Jésus nous a dit, nous sommes ses enfants. Voilà, donc nous connaissons ainsi l'intention de Dieu le Père. Lorsque Dieu le Père a envoyé Jésus dans le monde, alors Jésus est venu pour pouvoir goûter à la mort et alors il a prié sans cesse pour pouvoir atteindre son objectif. Et il a dit à Dieu le Père lorsqu'il a prié que cette coupe passe. Et il a prié dans une grande angoisse, mais il n'a pas refusé la volonté de Dieu. Et en fin de compte, et, Dieu savait que Jésus le craignait sincèrement, c'est pourquoi toute sa prière a été exaucée. Moi, je voudrais vous donner ma joie pour que vous soyez remplis de ma joie. Vous avez votre propre joie, je le sais. Même, parfois, je suis mélancolique et je suis un peu stressée. Mais lorsque je vois la télévision, je sors de ce stress. Et parfois, si vous avez obtenu une grande maison, vous vous en réjouissez. Mais ce genre de joie est temporaire. Il faut que nous ayons une joie éternelle. Il ne faut pas que nous haïssions les autres. Il faut que nous soyons remplis de joie. Jésus nous a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, je ne suis pas venu pour condamner le monde. Alors, je suis venu pour vous sauver. Jean, il est dit, chapitre 12, verset 40, « Écoutez mes paroles, il faut que nous soyons donc remplis de la joie de Jésus-Christ. » Jean 17, verset 13, Jésus l'a dit aussi, « Il faut que vous ayez ma joie, il faut que vous soyez remplis de cette joie-là. » Et c'est la joie que le Père m'a donnée, et je vous donne cette joie-là. Et alors, Jésus a fait la joie de Dieu le Père. Donc, il faut que nous participions à cette joie-là en évangélisant selon son commandement. Est-ce que vous avez la joie de Jésus-Christ en vous? Et est-ce qu'il faut que vous vous réjouissiez parce que le travail de Jésus est réussi, parce que l'Église croit? C'est ça le sujet de notre joie. Mais il ne faut jamais entraver l'Église. Il ne faut pas empêcher la croissance de l'Église. L'Église a été rachetée par le sang de Jésus et le Saint-Esprit régit cette Église. Le Saint-Esprit travaille donc au sein de l'Église. Même si nous sommes pécheurs, il nous a justifiés. Et alors nous croyons donc au sang de Jésus et nous participons à sa joie. Et quel est votre sujet de la joie? Même si Jésus-Christ a beaucoup souffert dans ce monde, il s'est réjoui et Dieu le Père s'est réjoui. Pourquoi? Parce qu'il savait que le sang de Jésus pouvait sauver l'humanité. Sans effusion de sang, Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il n'y a pas de salut. Jésus a dit, je suis venu pour mourir. Je suis venu pour vous donner ma vie. Alors, cette parole était difficile à comprendre. Mais c'était la volonté de Dieu parce que Dieu s'est réjoui lorsque Jésus lui a obéi. Et ensuite, Jésus nous a demandé, aimez-vous les uns les autres pour que vous soyez remplis de ma joie. Donc, il faut que... Il ne faut pas que nous disons il n'y a pas d'amour à l'Église. Si nous aimons vraiment l'Église, il faut que nous nous réjouissions. C'est parce qu'il y a la joie de Jésus en nous. Et avec cette joie-là, nous aimons l'Église. Donc, il faut que nous reconnaissions la joie de Jésus qui est en nous et il faut que nous la manifestions. Alors, Jésus nous a aimés et lorsque ce commandement est entré en nous, nous avons donc la joie de Jésus en nous. Alors, sinon, lorsque nous sommes venus à l'église, il faut que nous voyons seulement Jésus. C'est la peine de voir les autres. Si vous m'écoutez et lorsque vous écoutez ma prédication, comme la parole d'homme, vous ne pouvez que tomber en tentation. Si vous considérez mon serment comme la parole d'homme, et vous ne pouvez qu'être désespéré, vous ne pouvez que tomber en tentation parce que je suis quelqu'un ayant beaucoup de fautes. Mais je suis un vase d'argile, mais le Christ m'a appelé et il m'utilise. Je ne suis qu'un vase d'argile, mais il m'utilise comme son outil. Alors, ce que je vous annonce, c'est quoi? Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de justice de ma part que je me tiens devant vous, mais j'ai la foi. Et alors, c'est pourquoi je vous annonce la joie que le Christ m'a donnée. Et c'est pourquoi j'évangélise. J'annonce l'évangile avec cette joie-là. Prenez le point, mon âme. Sois rempli de la joie de Jésus. Mon âme, sois rempli de la joie de Jésus. Mon âme, sois rempli de la joie de Jésus. Donc, il faut que vous ayez une forte aspiration à l'évangélisation. À ce moment-là, vous pouvez être rempli de la joie de Jésus. Si vous n'évangélisez pas, vous ne pouvez pas avoir cette joie-là. Si vous voulez entraver l'Église, vous ne pouvez pas avoir cette joie. Et il faut que vous aspiriez à évangéliser. Lorsque le commandement de l'homme est entré en vous, voilà, si mes paroles demeurent en vous, et vous pouvez être rempli de la joie de Jésus. Levez-vous. Alors, il faut que nous soyons attachés au cèpe en tant que serment. Il faut que nous appartenions à Dieu. L'Église est le cèpe, le corps de Jésus. Mon âme aime l'Église. Mon âme aime l'Église. Mon âme aime l'Église. C'est ça la joie de Jésus-Christ. De même que le Père a aimé le Fils et il aime l'Église. Et alors, il faut que les paroles de Jésus entrent en nous et nous, il faut que nous y vivions. Nous sommes hommes du Saint-Esprit, hommes du sang de Jésus. C'est ce que nous devons reconnaître et il ne faut jamais oublier notre statut de chrétien. Prions.